Bonjour, et bien dans cette émission, je reçois le père Jean-Eudes Coulon pour que nous évoquions la loi très récente qui vient d'être votée sur le délit d'entrave à l'IVG.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté que nous évoquions cette question à Radio Grand Ciel, parce que je crois qu'elle est essentielle et que même si le christianisme, ce n'est pas une question de morale, il y a des enjeux de vie qui méritent qu'on s'y attarde.
Oui, je pense que l'attention à la vie et l'accompagnement de la vie et l'accueil de la vie dit quelque chose de notre société et que nous avons chacun d'entre nous le devoir et le besoin aussi de réfléchir à ces questions et de nous convertir pour que nous soyons toujours plus accueillants pour la vie.
Accueillant pour la vie, ça veut dire effectivement faire en sorte que la vie soit prise en compte, le début, la fin, les moments les plus fragiles, et puis aussi peut-être ailleurs, enfin dans beaucoup d'endroits où l'accueil de la vie et le respect de la vie doivent être pris en compte. Mais là, il me paraît en plus que non seulement il y avait une question de vie, mais aussi une question de liberté, de s'informer, de rendre pour les femmes, mais aussi pour tout le monde, la possibilité de s'informer.
Alors, j'ai lu donc une partie des débats parlementaires autour du vote de cette loi, et c'est justement l'argument qu'invoquaient ceux qui étaient contre cette loi. L'argument principal, c'était que c'était une loi liberticide qui faisait entrave à la liberté d'expression. Et l'argument de ceux qui portaient le projet de loi était de dire non, nous, ce n'est pas contre la liberté d'expression, c'est contre le mensonge qui est véhiculé sous un couvert de neutralité. Et c'est là où ça devient profondément ennuyeux, parce qu'en fait, si le gouvernement déjà juge de ce qui est un mensonge et de ce qui ne l'est pas, ou si le juge doit juger de ce qu'une opinion est vraie ou fausse, nous entrons dans quelque part déjà dans
un débat philosophique difficile à trancher.
Exactement, et dont sans doute l'État ferait mieux de ne pas trop rentrer. Ensuite, mon opinion est que les femmes qui sont confrontées à l'IVG ou qui se retrouvent dans une situation problématique et qui attendent un enfant cherchent à s'informer, évidemment. Et alors elles ont et elles reçoivent les informations qui sont données, j'allais dire de manière officielle, si je puis dire, celles qui ont pignon sur rue, et vont également chercher sur Internet, comme elles le font, et c'est aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet, comme elles le font pour tout autre sujet. Et donc, elles tombent aussi sur des sites qui disent une autre réalité, et qui, à mon avis, est aussi une réalité, qui est aussi tout le poids et toute la difficulté que porte cet acte. On voudrait empêcher que ceux qui sont, disons, insiste plus sur la douleur et sur la difficulté de cet acte, puisse s'exprimer sous un aspect neutre, en disant qu'ils essayent d'éclairer, qu'ils essayent d'accompagner. Il faudrait qu'ils se présentent d'abord comme étant les adversaires complets de l'IVG pour pouvoir avoir le droit d'exprimer leurs réserves. Et ainsi, du coup, on ne permettrait plus, mais c'est ça qui est sans doute inquiétant, c'est aussi l'accès à l'information et à la diversité de l'information, on ne permettrait plus du coup à ces femmes d'avoir accès aussi à un autre discours, puisque tous ces sites seraient
en tête,
nous sommes contre l'IVG. Donc évidemment, à partir du moment où elle se pose la question, elle n'irait plus chercher ces informations. C'est bien ça, à mon avis, la volonté qui est derrière cette loi. Voilà.
Oui, alors c'est vrai, une loi liberticide, une loi qui, démasquons les personnes qui sont hostiles à l'IVG et, disons, qu'elles disent clairement qu'elles sont hostiles à l'IVG avant de pouvoir parler.
Oui.
C'est effectivement, c'est un aspect, mais...
Et puis surtout, c'est sans doute pas prendre en compte vraiment la réalité des choses, qui est que les personnes qui animent ces sites, enfin, j'en ai rencontré une tout à fait de manière personnelle, sont des gens qui ont une grande sensibilité et qui essayent d'accompagner, qui essayent d'accompagner vraiment les femmes, avec sans doute leur présupposé philosophique, on pourrait même accuser d'être idéologique, mais qui ont une véritable bonne volonté, et elle ne se définit pas, la dame dont je vous parle, ne se définit pas comme une militante anti-IVG, pro-vie, etc. Non, elle se définit comme quelqu'un qui essaie d'accompagner les femmes. Et du coup, ce serait même pour elle-même, ça ne définirait pas, ça ne dirait pas pour elle qui elle est si elle devait rentrer et donc se soumettre à cette loi, qui est une loi pénale. Hein. Donc c'est une loi qui condamne, avec des peines qui sont quand même assez considérables, prison et 30 000 euros d'amende.
30 000 euros d'amende, oui.
Euh, Un autre élément qui me semble important, c'est que cette loi évoque et cherche à lutter contre les pressions psychologiques qui sont faites sur les femmes pour les empêcher d'accéder à l'avortement.
Oui, une pression psychologique qui se fait de toute façon, parce que je crois que là aussi, quand on parle de l'avortement comme ça, je me dis, mais attends, on parle de l'avortement, mais c'est quelque chose qui est rude pour une femme.
Oui.
Mettre un enfant au monde, c'est rude. Avoir un avortement, c'est rude. Il est question de vie, de mort. On frôle la vie et la mort. On donne la vie et il y a des choses qui sont... Mmh. Une expérience quand même qui est fantastique de vie.
Oui, fantastique. Et du coup, avec tout un poids existentiel, un poids de vie justement qui est considérable. Et qui fait que cet acte n'est jamais... Ou alors, dans sans doute des cas exceptionnels, mais je crois même pas, il n'est jamais anodin. Et il est toujours un drame. Et du coup...
C'est ce que disait Madame Veil lorsqu'elle a présenté sa loi.
Elle-même, et d'ailleurs elle-même a manifesté, ça a été cité dans les débats parlementaires, elle-même a dit qu'elle était contre la nouvelle loi qui vient d'être votée actuellement, et qui fait suite à d'autres, et notamment à la loi qui supprime le délai d'une semaine qui existait encore jusqu'à présent. Il y a aussi une autre loi qui était passée en supprimant la notion de détresse. C'est à mon avis un élément également important.
Et puis surtout, il y a quelque chose qui est un peu fou, c'est qu'en fait, avec ces histoires-là, ce sont les femmes les moins informées, donc les plus pauvres sur le plan de la réflexion ou les plus pauvres sur le plan matériel, qui vraisemblablement seront victimes de ce...
Mais sont déjà, parce que, excusez-moi de vous couper,
de cette
mais
loi.
Il y a des pressions psychologiques. Bien sûr, dans les deux sens, évidemment. Mais enfin, c'est la vie, on vit ensemble et les gens ont des opinions et les expriment et essayent d'aider, parfois maladroitement, etc. Mais des pressions psychologiques pour l'avortement et qui va contre la volonté fondamentale de la femme, je pourrais vous en citer quelques exemples. Il y en a quand même un certain nombre. Des gens qu'on pousse, des jeunes femmes qu'on pousse, quand on dit à une jeune fille qui est enceinte « tu vas gâcher ta vie », si c'est pas une pression psychologique, je sais pas ce que c'est. Après, c'est une opinion qui est exprimée de quelqu'un qui essaye d'ailleurs d'aimer et d'accompagner. Hein. Donc je porte même pas de jugement sur la personne qui dit ça. Mais on est obligé objectivement de dire c'est quand même une pression qui est faite psychologique. En disant à quelqu'un tu vas gâcher ta vie ou alors ton enfant sera malheureux, évidemment qu'on fait porter un poids psychologique à la femme qui l'oriente dans une direction. Après, si on lui dit dans un autre sens mais tu verras, tu pourras l'aimer quand même, il sera confié à des gens qui pourront prendre soin de lui, etc., ce qui est une autre forme d'opinion, une autre forme, si on veut, de pression psychologique, oui, évidemment. Mais l'ennui serait peut-être que du coup, sur Internet, les femmes ne seraient plus soumises que à la pression qui les inciterait à aller jusqu'à l'avortement, ce que certaines se reprochent quand même toute leur vie. Et là aussi, moi j'en ai, et j'ai rencontré, et j'en rencontre encore, des femmes qui sont dans ces situations-là. Donc je me dis que les réponses légales qui sont données à un vrai problème, à une vraie difficulté, qui est la souffrance de femmes qui tombent enceintes et qui sont confrontées à des situations difficiles, parce qu'il y a trop d'enfants, parce qu'elles sont trop jeunes, parce que l'enfant risque d'être malade ou elles-mêmes sont en danger, toutes ces situations existent. Mais la première réponse à apporter, c'est justement d'accompagner, de permettre, de rendre possible. Je crois que nous avons vraiment, et chacun d'entre nous, par aussi des associations, par aussi des actes concrets de charité, à essayer de permettre que ces choses soient possibles.
De ce point de vue-là, je pense que même en amont, il faudrait que l'information, la réflexion des adolescentes soit faite de telle sorte qu'elles puissent premièrement en parler dans leur environnement familial ou dans leur environnement, et puis mesurer l'importance des actes qui sont posés. Parce que j'ai l'impression quand même que quelquefois, on imagine que la... Enfin, j'étais frappée quand j'étais professeure de voir que... Je dis aux élèves, on ne couche pas n'importe comment. Bon. Je dis, mais madame, c'est le problème, c'est pas mes madames, le problème, c'est que vous risquez quand même de mettre en... Vous mettez votre vie en jeu, mais vous pouvez aussi mettre en jeu la vie d'un enfant. Alors, pour votre vie, ce serait mieux peut-être que vous réfléchissiez à deux fois avant de faire n'importe quoi, mais en plus, il y a la vie d'un tiers. Et je crois qu'il y a quand même là aussi toute une réflexion à avoir, parce que imaginez qu'un avortement, c'est un moyen de contraception, je trouve que quand même c'est un peu raide.
Oui, Alors évidemment, les défenseurs de la loi qui vient d'être passée ne vont pas jusque-là, en tout cas dans leurs propos. Mais ça, vous me faites penser à autre chose.
En amont, il y a quand même, oui, avant d'en arriver à pour ou contre l'avortement, il y a aussi une information qui permettrait aux gens de...
Mais c'est aussi du coup toute une réflexion sur le sens de la sexualité, mais ça nous emmène beaucoup plus loin, mais ça nous emmène aussi justement à dire que cette information, cette éducation, si je puis dire, elle n'est pas, c'est pas seulement auprès des jeunes filles. C'est aussi auprès des jeunes hommes.
Oui,
et j'aimerais aussi que eux, et notamment les plus jeunes, prennent leurs responsabilités dans ce domaine. Parce que c'est quand même là aussi, c'est des histoires qui ne sont pas du tout rares. C'est-à-dire, si tu le gardes, je te quitte. C'est quelque chose qui est affreusement banal. Et là aussi, j'ai des exemples personnels que je connais. Donc, c'est pas.
C'est fou.
Et donc, il faut aussi redire et redonner conscience aux hommes de leurs responsabilités. Et que quand on fait quelque chose, mais en fait c'est même, qu'est-ce que c'est qu'un acte humain ? C'est un acte qui met en jeu notre responsabilité.
Et puis qui engage l'avenir, et je crois qu'en plus la sexualité c'est quand même quelque chose de fondamental dans l'homme et dans la femme, et que là vraiment on peut quand même essayer d'éduquer pour que les uns et les autres réfléchissent avant d'engager la vie d'un autre. En plus la vie d'un autre c'est la vie d'un bébé, mais auparavant voir un peu ce que signifie la relation sexuelle.
Ben justement, du coup, aussi vieux jeu soit-elle ou paraît-elle, il me semble que l'Église a quelque chose vraiment à apporter au monde et à notre société et à notre culture en parlant et en ayant un discours sur la sexualité tel qu'il a été développé par le saint pape Jean-Paul II et ses successeurs. Et je pense que du coup, nous avons en quelque sorte une bonne nouvelle à annoncer, parce que comme ça, nous terminerons aussi sur une note positive. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de grand dans la sexualité humaine qui doit être à nouveau redécouvert et annoncé pour que nous vivions mieux, et parce qu'il y a quelque chose de très fort et de très grand à vivre, et que quand l'avortement survient, quand l'IVG est là, ça manifeste quelque part un échec.
Voilà, alors je pense que là de fait il y a tout un travail à faire sur l'éducation à la contraception, c'est clair. Alors l'éducation à la morale et puis aussi à la contraception pour que...
Moi j'insisterai plus sur l'éducation à la responsabilité.
Responsabilité, morale, et puis les uns et les autres en tireront les conclusions ou les comportements adéquats. Mais c'est vrai aussi que si la liberté est importante et qu'il faut suivre sa réflexion personnelle, il faut aussi peut-être des lieux pour que les gens puissent recevoir l'éclairage de cette...
Oui, oui. Mais aussi des lieux pour pouvoir permettre à celles qui ont le désir de garder... Parce que pour moi, l'enjeu fondamental, il est là. Tout le combat politique qu'on peut faire sur les lois, c'est super, très bien. Manifester, c'est très bien. Le pape François a récemment envoyé un message à la Marche pour la vie américaine. Là, j'ai vu ça sur Internet tout à l'heure. Mais plus fondamentalement, il faut que nous donnions des lieux d'accueil pour les femmes qui sont en difficulté et qui sont confrontées à ces sujets-là, pour que l'IVG ne soit pas la seule issue. Et il y a quelque chose à faire de très concret, et le monde politique, pour le coup, a vraiment sa part à jouer, et je suis convaincu que des associations doivent naître, et naissent déjà, et doivent se développer. J'appelle même de mes voeux, c'est une espèce d'idée comme ça, une congrégation religieuse qui se dévouerait aux soins des femmes en difficulté, spécialement des mères en difficulté, des jeunes mères. J'aimerais, à mon avis, il y a quelque chose de tout à fait possible, et qui pourrait, et qui commence déjà, mais qui pourrait se prendre une place beaucoup plus grande, et qui permettrait sans doute d'aider les femmes de manière plus humaine, si je puis dire.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Père Jean-Eudes, d'être venu à Radio Grand Ciel pour cette discussion.